appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujima au Kassai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. Lors du premier conseil des ministres du gouvernement Bruno Tshibala, le chef de l'État a rappelé la nécessité de concentrer les efforts pour la tenue des élections dans un délai raisonnable. Certains observateurs estiment que par le temps qui reste avant décembre, on risque de ne pas permettre la mobilisation des ressources financières internes pour la tenue de ces élections. Alors que faire pour mobiliser les ressources internes en vue de ces élections? Vous pouvez participer à cette émission à l'adresse pa@radiocapi.net et vous pouvez également nous rejoindre en composant les 081 890 63 15 ou encore les 081 890 49 69 pour votre intervention en direct. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Nico Kalambay, Sylvain Madundou, Pierrot et la Meji. Ce programme est supervisé par Martin Essebujangwe et coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Je disais que certains observateurs estiment que par les temps qui restent, la mobilisation des ressources financières internes pour la tenue de ces élections risque d'être très difficile. Vous êtes à Vienne, Franck. Bienvenue dans cette émission.
Oui. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les aimables auditeurs de la Radio Capi.
Est-ce que vous pensez comme tout le monde que la mobilisation des ressources financières internes pour la tenue des élections risque d'être difficile?
Oui, monsieur le journaliste, je crois que nous avons déjà un âge assez avancé qui nous permet de comprendre un peu comment la politique est faite chez nous. Puis la réelle politique dans son intégralité et surtout celle mise en place à la congolaise, dans l'optique fondamentalement congolaise, nous contraint de ne plus nous fier aux simples allocutions et discours des politiciens, mais plutôt nous avons besoin de voir des actes concrets. Donc c'est seulement à base des actes qu'on peut croire à certaines personnes quand elles s'expriment. Et pour certaines situations, on ne doit pas seulement se fier à une parole, à un discours prononcé devant un public, devant un auditoire, pour nous rendre compte que ça s'arrête jusque-là. Parce que par rapport à ce qui se passe avec l'organisation des élections, la première question qui doit nous aider à comprendre un peu les intentions cachées des uns des autres, c'est celle de savoir pourquoi les élections n'ont pas été organisées à la date prévue. Ils ont donné des prétextes.
Franck, on est en train de chercher à les organiser.
Mais nous sommes à 6 mois.
Oui, Franck.
Nous sommes à 6 mois des
Franck,
élections.
Franck, s'il vous plaît.
Nous n'avons pas encore voté le budget. Il y a encore beaucoup de préalables qui manquent. Et je crois que ça ne serait pas vraiment imprudent de dire qu'il faut encore se poser autant de questions pour la tenue de ces élections.
Alors,
et par rapport
oui,
à la question
oui,
vraiment de,
oui,
du débat,
voilà. Il fallait aller directement.
Moi, je crois qu'il faut être réaliste. Il faut être réaliste parce qu'au Congo, le plus grand problème que nous avons au Congo, selon moi, c'est une équation à deux inconnues. Nous avons d'abord un problème d'hommes. Nous avons un problème d'hommes. Des hommes capables, des hommes politiques capables de se soumettre aux lois. Jusque-là, je vois dans la plupart des cas des hommes qui se situent au-delà des lois. À part cet aspect d'avoir des hommes capables qui se soumettent aux lois, nous devons aussi avoir une volonté manifeste devant nous amener à matérialiser cette politique nationale schématisée pour le bien des uns et des autres. Mais seulement si on schématise une formule politique, mais on ne donne pas des moyens pour la matérialiser, ça s'arrête en cours de route. Si on dit on va faire ceci, mais dans l'entretemps on bloque la machine, ça ne va pas nous aider à
Alors, Franck,
c'est le problème que nous avons.
Oui,
les
Franck.
Discours sont prononcés, mais le même discours ne sont pas prononcés avec les mêmes intentions dans lesquelles ils sont prononcés. Et c'est là où nous avons beaucoup de problèmes. Donc on dit une chose en public, mais en coulisses on veut son contraire.
Alors voilà, Franck, est-ce que Franck,
oui.
Est-ce que vous répondrez à ma question? Est-ce que vous pensez que c'est difficile aujourd'hui de mobiliser des ressources financières à l'interne? Parce qu'en 2006, nous avons organisé les élections avec l'appui des partenaires à 40%, comme l'ont dit certains experts. Et en 2011, c'était en tout cas avec des ressources propres de la RDC. Est-ce que vous pensez que la RDC aujourd'hui, parce que nous sommes dans un domaine de souveraineté, peut arriver à organiser l'élection par ses propres ressources? Alors comment les mobiliser? C'est ça la question. La question de temps, si on doit organiser, je crois que ce n'est pas la question du jour. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mobiliser réellement ces ressources à l'interne?
Qu'est-ce qu'on peut faire pour mobiliser réellement ces ressources? Je crois que selon moi, il faut d'abord qu'il y ait un peu de volonté politique, il faut qu'il y ait un peu de discipline financière, puis il faut placer des hommes honnêtes dans toutes ces régies financières devant nous aider à mobiliser toutes ces recettes-là. Ça, c'est d'abord un. De deux, il faut aussi avoir un budget assez proportionnel et réaliste par rapport aux recettes que nous pouvons mobiliser à l'interne. Mais comme je venais de le dire, quand on a déjà de la bonne volonté, on peut bien. Mais le problème que nous avons, on peut spéculer, on peut donner des pistes, mais qui va nous écouter?
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Franck. Voilà, merci beaucoup, Franck. Je retiens trois points. Vous avez parlé de la discipline financière, la volonté politique et un budget conséquent. On arriverait à organiser les élections dans un délai raisonnable. Merci beaucoup, Franck. Amos, vous êtes à Bukavu. Bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Alors, si je comprends bien par rapport à ce que venait de dire Franck, c'est que ça peut être aussi facile d'organiser les élections si jamais il y a une discipline financière, la volonté politique et un budget conséquent. Est-ce que vous partagez cet avis?
Justement, mais ce qui est mal dit, c'est quoi? Le peuple congolais a un problème d'avoir un président qui a toujours dit ce qu'il ne sait pas et qui sait ce qu'il n'a pas dit. Vous allez vous souvenir que même depuis 2013, notre chef de l'État nous disait qu'il y aura élection en respectant la Constitution. Mais qu'est-ce que nous avons fini par vivre? Quand il a dit qu'il faut qu'on mobilise les recettes pour que les élections se tiennent, avec quel calendrier? C'est la grande question qu'il faut se poser. Par rapport à ce que vous avez dit pour ce qui est de la mobilisation des recettes, je veux bien. Mais comment peut-on parler de la mobilisation des recettes dans un pays où on a toujours signalé le coulage des recettes publiques? Vous allez comprendre qu'avec l'impunité créée par les mêmes pouvoirs qui sommet à la base, toutes les institutions qui peuvent faire entrer l'argent dans les trésors publics, il y a coulage avéré des recettes de l'État. Et voilà pourquoi nous ne pouvons pas dire que non, on va mobiliser les recettes. Parce que si, dis-moi, le chef de l'État avec cette bonne volonté, nous sommes confiants que le pays ne manque pas de l'argent. Nous avons beaucoup d'argent, mais il faut voir combien de fois on a toujours signalé des détournements de deniers publics par les mêmes gens qui sont dans le pouvoir, par les mêmes gens qui sont censés protéger l'argent du pays, par les mêmes gens qui devaient nous organiser les élections. Moi, je vais revenir à ce qu'on préfère venir de dire, il y a problème de volonté politique. Moi, je pense, comme je l'ai toujours dit, que ce soit le chef de l'État en place, que ce soit tout le monde qui l'accompagne, personne n'a jamais voulu que les gens s'organisent parce que tous ces gens sont conscients de leur échec, tous ces gens sont conscients du ridicule imposé au peuple congolais, tous ces gens sont conscients qu'ils n'ont plus la confiance du peuple congolais. Voilà pourquoi moi je pense que ce que le chef de l'État a dit, c'était une façon de vouloir amuser la galerie ou peut-être tromper encore une fois la vigilance du peuple congolais pour que la population pense que cette fois-ci, les élections vont s'organiser et pourtant cela n'a jamais été un peu à l'ordre du jour, que ce soit auprès du chef de l'État, que ce soit même au sein de sa majorité présidentielle. Moi, je voulais dire, plutôt lancer un appel au peuple, et comprendre que si le peuple ne parvient pas à user de tous les moyens lui garantis par la Constitution, et parvenir à exiger la tenue des élections avant la fin de cette année, nous allons attendre ces élections le plus longtemps que possible et le peuple continuera toujours dans cette
situation. Amos, juste une question de curiosité, oui. Parce que lorsque nous analysons vos propos, vous avez dit simplement que la mobilisation des recettes dans un pays où on évoque à tout moment les coulages avérés des recettes, c'est pratiquement difficile de pouvoir mobiliser ces ressources à l'interne, enfin en vue de l'organisation des élections. Et aussi, aujourd'hui, vous avez reconnu que le pays ne manque pas de moyens pour arriver à financer dès lors que on a essayé de le faire en 2011 par sous fonds propres. Je crois que tout est possible. Mais vous estimez aussi que la population peut, s'impliquer pour qu'on arrive réellement à se mobiliser. Je crois que là, c'est un plaidoyer que vous lancez même à ces mouvements citoyens pour chercher aussi par quels moyens ils peuvent mobiliser des ressources à l'interne au lieu chaque fois de s'opposer que sur des plans politiques.
Justement, c'est ce que je te disais. Il faut d'abord qu'il y ait un pouvoir qui met fin à l'impunité. Mais quand vous allez vous rencontrer que ce sont les mêmes dirigeants qui appuient l'impunité au pays, qui vous avez suivi, on a toujours parlé du terme « Semuyangu ». C'est au Congo seulement on peut vivre de tels termes. Hein, pour dire que les mêmes gens qui font semblant de vouloir diriger le pays, de vouloir défendre le peuple congolais, ce sont eux qui, au nom de leurs intérêts,
voilà.
Alors, qui pillent
voilà,
le potentiel du
merci
pays.
Beaucoup.
Et
je crois
même
que pour
si vous arrivez dans toutes les institutions publiques, vous avez rencontré que beaucoup d'argent. Je donne un exemple à Bukavu. Dernièrement, on a été à la police judiciaire. On est entré pour qu'on ait les casiers à la police judiciaire. On exige $35 et 2000 francs. Mais l'argent qui entre dans les trésors publics, c'est 9300 francs qui équivalent à $7. Tous les $25 ou plus de $25, ça se va dans la nature. On vit et aussi des dirigeants et ils savent comment cet argent se va dans la nature. Vraiment, c'est purement catastrophique dans notre pays. C'est là que j'ai lancé un appel à tous les mouvements citoyens de se mettre à l'œuvre avec la population pour qu'on exige les élections avant la fin de cette année et que nous ayons des dirigeants pouvant valablement diriger le pays et répondre aux attentes du peuple congolais.
Voilà, merci beaucoup Amos. Vous avez pratiquement rejoint l'idée générale de Franck de Vienne tout à l'heure, qui a proposé d'ailleurs trois pistes pour que nous quittions cette hypothèse de la difficulté ou d'organiser les élections dans un délai raisonnable. Il a proposé la discipline financière, la volonté politique et un budget conséquent. Et d'ailleurs, nous profitons pour signaler que le gouvernement Bruno Tshibala a déjà d'ailleurs déposé son budget au niveau de l'Assemblée nationale, la proposition donc de budget 2017. Amos, vous l'avez dit sûrement en évoquant la question sur les coulages avérés des recettes et qui a comme conséquence l'impunité des gens qui continuent à piller de l'argent qui sont mal canalisés et qui pourraient peut-être permettre au gouvernement d'avoir les moyens de sa politique enfin de financer ces élections. 081 890 49 69 pour votre intervention en direct.
Congolaises et Congolais, l'enrôlement des électeurs tire à sa fin. Faites-vous enrôler dans le centre d'inscription de la CENI le plus proche de votre habitation, dans votre commune ou dans votre groupement.
Peut-on se faire enrôler dans n'importe quel centre d'inscription de son choix?
Non. L'électeur doit se faire enrôler uniquement au centre d'inscription le plus proche du lieu où il habite, à l'intérieur de sa commune ou de son groupement. En effet, on vote là où on s'est fait enrôler.
J'ai ma nouvelle carte d'électeur, je voterai et toi.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci à vous tous qui avez posté vos commentaires sur notre page Facebook où d'ailleurs se tient ce débat qui a atteint pratiquement plus de 2000 personnes et merci à vous tous qui avez déjà commenté. Maître Likunza dit que l'on peut tout dire mais tant que l'on ne dotera pas l'état de son budget définissant clairement la part allouée aux élections suivant les chronogrammes irrelatifs, le pays restera dans un statu quo en décembre prochain. Emmanuel Mabouaka pense qu'il est très important que l'AMP et son gouvernement respectent les prescriptions des accords de Saint-Sylvestre à la lettre en mettant des fonds nécessaires à la CENI et aussi libérer l'espace politique car au Congo central et ailleurs, les gouvernements provinciaux et les services de sécurité empêchent les partis politiques de l'opposition et autres organisations de faire des manifestations publiques. Maître Gervais estime que le mécanisme à utiliser pour y arriver sera l'implication de tous les citoyens, car la gestion de la chose publique n'épargne personne, même cas pour les élections. À défaut de ça, rien ne sera organisé et à l'impossible, nul ne sera tenu. Séraphin Majaliwa pense qu'il y a la volonté politique, les moyens suivants, car, dit-il, la CENI de Ngoï Moulunda et Jacques Ndjoli nous avait organisé les élections en 4 mois, bien qu'il y avait des contestations, ce qui est d'ailleurs la réalité de toutes les élections au monde. Mais pour le peuple congolais, c'est l'alternance qui compte d'abord, et c'est là à n'importe quel prix. Junior Bompongo estime que le Premier ministre est dans la droite ligne de sa politique publique, car son pouvoir a un objectif préalablement défini, celui d'organiser les élections suivant l'esprit et la lettre de l'accord de Saint-Sylvestre. Mais il craint que ces derniers utilise des mécanismes pour justifier tôt ou tard l'incapacité du gouvernement de doter la CENI des moyens suffisants pour la tenue des élections. Voilà, il faut encore, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Radio Okapi. Vous êtes nombreux, donc on va découvrir au cours de cette émission les messages des uns et des autres. Mais nous avons le plaisir dans ces studios de recevoir donc Jérôme Brosseau, qui est le président de la LINELIT, Ligue Nationale pour les élections libres et transparentes. Bonjour, monsieur Jérôme.
Bonjour, cher.
Alors, d'entrée de jeu, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est possible et que ce n'est pas difficile de mobiliser des ressources à l'interne pour l'organisation des élections, si nous devons nous référer d'ailleurs à ces efforts menés par le gouvernement en 2011?
Cher ami, ce n'est pas impossible. C'est possible. L'argent, tout d'abord, l'argent, c'est la volonté. C'est la volonté de le mobiliser tout d'abord et la volonté aussi de l'avoir et de le mettre à la disposition du pouvoir organisateur des élections.
Et qui donne l'argent, selon la loi? L'argent est donné pour les élections par la dotation gouvernementale. Ça, c'est le gouvernement qui donne l'argent pour l'organisation des élections à travers la loi financière que nous appelons le budget, qui va bientôt être présenté aujourd'hui à la représentation nationale. Qui donne aussi l'argent? S'il y a aussi l'apport
de partenaires
qui donnent aussi l'argent. Et les partenaires, dans leur rapport pour donner l'argent, ils font ce qu'on appelle des souscriptions, des promesses. Et l'histoire nous rappellera, ce qui concerne le budget électoral pour les élections de cette année, nous l'avons bien suivi. En 2006, c'était plus de 80% l'apport de la communauté internationale, des partenaires extérieurs. En 2011, c'est plus de 80% du gouvernement de la République. Et en 2014, quand nous avons voulu maintenant le reste pour faire les élections, nous n'avons pas eu l'argent. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, il y a eu trois tentatives d'organiser des élections. La tentative s'était illustrée par la publication du calendrier. La Commission, en date du 30 janvier 2014, avait publié ce qu'on appelle feuille de route. Et dans la feuille de route, la Commission électorale nationale indépendante avait présenté des exigences, entre autres l'exigence financière qu'il faut mobiliser. Et nous n'avons pas pu le faire. Et cette tentative de 2014 a échoué. La deuxième tentative d'organisation des élections, c'est la publication du calendrier partiel du 26 mai 2014. Et dans ce calendrier aussi, on exigeait aussi l'argent et d'autres contraintes qui étaient là. Parce que l'argent n'était pas là, le calendrier partiel n'a pas pu voir le début d'exécution. Et la dernière tentative, la troisième, c'est la publication du calendrier électoral global du 12 février 2015. Mais ce calendrier contenait 23 contraintes. Et la contrainte la plus majeure, c'était la contrainte financière. Et cette contrainte financière posait de sérieux problèmes. Et l'argent, on donne à la CENI pour faire quoi? C'est pour affecter à des rubriques budgétaire. La CENI n'a que 4 rubriques budgétaires. La première rubrique, c'est rémunération du personnel. Dans son budget de janvier 2014, il avait prévu 24 millions de dollars pour la rémunération. Deuxième rubrique, c'est le fonctionnement de la CENI. Dans le budget de 2016 qui a évolué, qui a été actualisé, était à 12 millions de dollars. Tandis que l'opération prenait 243 626 190 dollars. Et investissement 4 millions de dollars. Donc tout cet argent, il faut le mobiliser dans l'opération. Et à l'heure qu'il est, parce qu'on m'avait posé la question, est-ce qu'il faut faire les élections aujourd'hui? C'est comme qui dirait quelqu'un qui demande à l'enfant qui demande à sa maman, est-ce que je vais manger à midi? Pendant que la maman n'a pas encore acheté de bref. Et la maman savait qu'il n'y a pas du courant. Et le papa, il est parti encore voir si son salaire a été versé dans son compte bancaire. Il n'est pas encore rentré. Mais midi s'approche, est-ce que mon enfant va manger? Mais là, il y a une conviction, l'enfant doit manger. Impérativement manger. Mm-hmm. Mais l'enfant s'est trouvé devant un fait accompli que papa, depuis qu'il est parti, n'est pas encore rentré. Mm-hmm. Et maman, du côté, n'a pas encore allumé le braise. Mm-hmm. Et vous voyez, tout ça, ça montre qu'on s'est trouvé devant un fait accompli. C'est dans quel ce qui nous concerne aujourd'hui, élection dans
mais, mais certains observateurs ont, en fait, appuyé et phrasé même le président de la CENI lorsque il a confirmé et affirmé, d'ailleurs, dans l'une de ses déclarations, que le budget qui a été présenté pour les opérations, pour le processus électoral, prenait en compte d'ailleurs les activités qui étaient déjà lancées, notamment celles des opérations d'enrôlement, parce que le gouvernement avait déjà financé. Une partie a été déjà versée. Donc, comme pour dire, le feu a été déjà allumé. Maintenant, il ne risque que de mettre la casserole sur le feu pour cuire la nourriture.
Vous savez,
est-ce qu'à 6 mois maintenant, selon l'esprit de l'accord du 31 décembre pour les élections en décembre 2017, est-ce c'est possible d'avoir aussi la partie qui reste auprès des partenaires? Donc c'est ça la question.
Oui, oui, donc au niveau de partenaires, il ne faut pas compter sur...
Parce qu'il y a déjà une volonté.
Si, le partenaire avait souscrit pour 120 millions de dollars. Mais certains partenaires ont décliné leur souscription. De 120 qui constituait la promesse de financement de la part des partenaires.
Ont décliné pour quelle raison?
Eux-mêmes savent pourquoi. Ils ont dit nous avons souscrit à cela, mais compte tenu.
Mais certains partenaires réclament qu'il y ait alternance, qu'il y ait la démocratie, qu'il y ait les élections. Mais pourquoi vouloir une chose et son contraire?
Voilà. Sur 120 millions de dollars qui étaient souscrits par le partenaire, nous sommes arrivés maintenant au chiffre dans les 120 millions de dollars souscrits. Nous sommes à 70 millions parce que certains partenaires se sont désengagés pour financer le processus électoral, pour les raisons qui sont leurs propres. Et maintenant, au niveau interne, vous avez dit, on a allumé, on a dit, est-ce que nous avons toujours parlé, nous, au niveau de notre plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées à État et au niveau de la ligne élite, nous avons toujours voulu qu'on puisse donner l'autonomie financière à la CENI, avoir un fonds propre. Parce qu'on vous donne, vous commencez les activités, et à un moment donné, vous allez vous arrêter. Parce qu'aujourd'hui, la CENI est en train de faire maintenant les opérations d'aller de Kinshasa, enrôlement, identification enrôlement, précédé par la formation des agents électoraux. Et si on donne le go, est-ce qu'il y aura le suivi? Parce que si la CENI avait eu...
Donc vous vous plaidez pour un fonds propre de la CENI.
Mais si il a son argent propre, une autonomie, ce que nous appelons en termes de gestion, autonomie financière, la CENI pourrait aller plus vite. Parce qu'aujourd'hui, on lui donne un crédit. Parce que le pays est géré pas jusque-là.
Crédit provisoire.
Je vous ai donné une tranche, je croyais, je le gère, vous allez évoluer un peu, faire un peu d'acrobatie. Et à un moment donné, et ça t'envoie des brisés. Et quand je viens chez vous, je dis, mais on va aujourd'hui. Le crédit n'est pas encore disponible pour mettre à disposition de la CENI. Aujourd'hui, la loi financière est en train de discuter pour les restes de 6 mois.
Alors, que faut-il faire en ce moment, à 6 mois des élections?
À 6 mois des élections, nous pensons que le gouvernement de la République doit faire un dépassement de volonté politique pour voir par quelles mesures qu'on ne puisse pas arrêter cet élan de la CENI. Parce que l'opération, l'enrôlement et identification des électeurs, c'est une opération très, très, très coûteuse. Très coûteuse. Et quand on va faire cette opération, parce que vous savez, les élections, ça se prépare chez la Niger. Parce qu'il y a d'autres opérations qui vont être encore beaucoup plus compliquées, qui nécessitent...
Mais la plus grande opération, c'est celle-là. Donc, c'est qu'un enfant qui réussit déjà au premier test, c'est bon. Ça montre déjà, c'est des signes avant-coureurs qu'il y aura effectivement l'élection. Mais alors, comment ne pas... que faire pour ne pas arrêter cet élan déjà?
Mais monsieur, il faut l'argent. Il faut l'argent, vous l'avez dit, les partenaires techniques et financiers donnent l'argent. Ils donnent, ils n'ont pas
les moyens logistiques.
Ils n'ont pas encore donné. On est encore au niveau des discours et des promesses. Et au niveau du gouvernement, quand est-ce qu'on va mobiliser encore, disponibiliser cet argent pour donner à la CENI?
Du côté logistique, je crois qu'il y a une partie de la solution a été trouvée. Le gouvernement a donné de gros camions au niveau des FRDC. Et ils ont quand même doté la CENI de quoi? D'une dizaine ou vingtaine de véhicules pour faire emporter quand même les kits. Et il y a également les avions que les partenaires ont mis à leur disposition. Il y a le projet PASEC et le PNUD qui travaillent pour les cycles électoraux aussi dans ce sens-là. Donc je crois que déjà, il y a des signaux très forts.
Il y a des signaux très forts, mais il faut aller jusqu'au bout. Parce que quand on déclenche une opération, ce qui compte, c'est quoi? C'est le résultat. Est-ce qu'on va atteindre le résultat dans le temps prévu ou bien on va atteindre le résultat après le temps prévu? Et c'est ça le problème. Il ne suffit pas de dire, non, est-ce que nous sommes arrivés au résultat? Le résultat, c'était quoi? C'est organiser les élections avant le 31 décembre 2016. Et au regard de tout ce qui se passe, au regard de tout ce que nous venons d'assister, tous, nous avons été avant-hier avec nos amis de l'Organisation internationale de la francophonie qui ont rendu leur rapport d'évaluation et d'assistance électorale à CENI. Et nous avons vu, il y a encore beaucoup de choses à faire. Ces choses à faire, c'est à plusieurs ordres. Donc, il y a autant de défis. Vous prenez aussi les défis techniques. Parce que nous aurons 65 000 candidats. Et c'est la première fois que nous allons organiser trois élections couplées. Trois élections, je dis bien. Élections présidentielles, députation nationale et députation provinciale. Pour 65 000 candidatures donc, à traiter. Et nous allons produire, parce que nous aurons 28 000 candidats pour députation nationale, 35 000 candidats pour députation provinciale, plus de 20 candidats pour la présidentielle. Et ça, nous devons concevoir le bulletin de vote. Et ce bulletin de vote seul, la conception, l'impression et le déploiement, ça nous coûte plus de 350 millions de dollars, et au-delà. Vous voyez, c'est ce qui fait que...
Donc, si je comprends bien, par ces temps qui courent, c'est hyper nécessaire de pouvoir, bénéficier de la contribution des partenaires.
Non, on ne peut pas contribuer.
C'est indispensable.
Mais ils ne contribuent pas. Pour le moment, ils n'ont pas encore contribué. Et parce que je vous ai parlé de chiffres. Parce qu'il faut faire la part des choses. Vous savez, suivi le communiqué de la MONUSCO. La MONUSCO a dit, je ne fais pas partie des partenaires qui ont contribué financièrement. Moi, je suis de côté logistique. Mmh. Oui, quand on va contribuer.
C'est une contribution quand même substantielle. Parce
très
que
important.
Déplacer,
très appréciable.
Voilà.
Appréciable. Mmh. Mais du moins, de l'autre côté, d'autres partenaires qui avaient soutenu 120 millions, ils se sont désengagés, nous sommes arrivés à 70 millions, ce n'est pas encore donné.
Avec peut-être le 40% que le gouvernement a déjà mis à disposition pour les opérations d'enrôlement, je crois que déjà, on est dans les bons.
On est dans les bons, mais reste à savoir si nous allons arriver à atteindre le résultat.
Voilà, 081-890-4969 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité d'échanger de manière citoyenne sur notre page Facebook avec des internautes et aussi d'autres amis qui participe à cette émission en direct.
Parole aux auditeurs.
Valérie nous a rejoint, il est à Kindou. Valérie, bonjour.
Bonjour JR, bonjour à l'invité, bonjour à tous les okapistes.
Voilà, quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, ma contribution est telle que je ne vois pas tellement un problème quant à la mobilisation des revenus. D'autant plus que nous avons déjà eu à réparer beaucoup de choses qui se sont faites dans ce pays, en dehors même du processus ou, disons, des postes budgétaires. C'est beaucoup plus, à mon sens, un problème de la volonté politique. Je crois que nous pouvons bien citer les cas de l'immeuble. Il y en a d'autres. Ce sont des immeubles qui ont été construits en dehors de toute planification budgétaire. Alors, moi, je crois que s'il y a de la volonté, nous pouvons toujours y parvenir, d'autant plus que ce n'est pas l'ensemble des revenus ou bien des ressources liées à l'ensemble des élections dont on a besoin immédiatement. Pour l'année 2017, c'est exclusivement les trois premières élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales. Et il a été publié par la CENI elle-même que pour toutes ces trois élections, il nous faut 524 millions quelque chose. Si on peut arrondir à 525 millions, je crois que les problèmes ne se poseraient pas, surtout encore lorsqu'il faut reconnaître que le budget même est revu à la hausse. Hier, on parlait de 4 milliards, mais aujourd'hui, nous sommes vers 7 milliards, c'est pratiquement le double. Alors, je ne vois pas comment, quand on multiplie la valeur, le montant du budget, nous pouvons devenir incapables de faire des problèmes très sensibles pour lesquels le montant n'a pas aussi évolué dans la même proportion. Vous savez, JR, maintenant, quand j'en viens à la raison politique, nous devons comprendre quand est-ce que l'humanité est arrivée à mettre un accent sur la démocratie. Il est vrai que c'est un concept qui avait déjà été développé par Aristote, bien avant la naissance de Jésus-Christ, mais un peu plus tard, nous avons vu, n'est-ce pas, que c'était à l'occasion de la Deuxième Guerre mondiale, parce que nous, faut vous rappeler qu'il y a eu trois parmi les conférences qui ont eu lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale. On peut citer la conférence de Téhéran en 1943, et une autre à Yalta en février 45, et puis à Potsdam en 1945 toujours. Entre-temps, déjà en 1944, on avait commencé notre réunion qui a abouti à la création en 1946 du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale en tant qu'institution de Bretton Woods. Mais s'agissant des institutions politiques, c'était en février 1945 à Yalta que les nations qui étaient impliquées dans la guerre s'étaient dites, écoutez, nous devons quand même arriver parmi les réformes qui ont été adoptées. Il a été décidé que cette fois-ci, il faudrait qu'on donne au peuple l'occasion de lire lui-même ces institutions de manière démocratique. Et lorsque l'humanité a évolué vers la démocratie, on a trouvé un apaisement. Vous comprenez que nous ne pouvons pas aujourd'hui chercher à inventer la roue. Devons nous impliquer dans l'histoire, sinon c'est comme si nous voulons ramener la République démocratique du Congo à une expérience d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Alors que c'est parce que la Première Guerre mondiale elle-même n'a pas été bien gérée qu'on était arrivé à la Deuxième. Donc moi je crois que il est tout à fait nécessaire que la CENI ainsi que le gouvernement puissent se mettre d'accord, que le gouvernement débloque, parce qu'à entendre parler de la majorité et les rassemblements, tout le monde parle au nom des élections. Puisque tout le monde est d'accord, il ne reste plus que à ce même tout le monde de concrétiser.
Alors Valérie, si on fait un calcul, simple, comme il était déjà prévu dans les budgets des élections, le gouvernement devait mettre de côté chaque année 250 millions. S'il faudrait faire le calcul, parce que vous l'avez dit, 525 millions pour les trois élections, les trois scrutins prévus au niveau autour de décembre prochain, on mettra comme ça 4 ans.
Non, pas de question de 4 ans, mais en dehors du montage, je vous ai aussi dit qu'il y a eu des projets comme l'immeuble intelligent qu'on a fait en dehors du budget. C'est question seulement de décider que par mois, on va débloquer autant, on divise le montant par 6, tout est possible. Hein, s'il y a de la volonté politique.
Donc vous estimez encore que c'est possible.
C'est pas tellement compliqué. La volonté politique, c'est la volonté politique est capable de tout. D'ailleurs, on a toujours dit que la politique, c'est l'art du possible. Mais si en plus de cela, il y a une multiplication du budget, pourquoi on ne peut pas?
Alors Franck qui parlait tout à l'heure de la discipline financière, aux côtés de la volonté politique, ça donnerait quand même le résultat. Est-ce que vous pensez aussi à ça?
En effet, oui, parce que tout le monde dit que les élections constituent une priorité. Je n'ai entendu personne, ni de la majorité, ni du rassemblement, dire que les élections ne sont pas une priorité. Mais puisque c'est une priorité, il ne reste plus qu'à les concrétiser en allant de l'avant, en regardant tous dans la même direction, en voyant l'absolu. Mais si c'est un slogan, bon, c'est là où peut-être
ça risque d'être blessé. Merci beaucoup.
Chacun s'insère, donc je crois que là, il ne se poserait pas de problème, d'autant plus que le budget est réduit au double pratiquement, et là, j'insiste.
Voilà. Merci beaucoup, Valérie, d'avoir appelé des Kindou. Maître Adrien, vous êtes à Kananga, bonjour.
Oui, bonjour, Gilles Lungembo. Bonjour à tous les amis auditeurs.
Vous êtes aussi optimiste, comme Valérie, qui estime que ce budget revu à la hausse pourrait donner encore de l'espoir pour que on puisse réellement mobiliser les ressources en interne en vue des élections d'ici au mois de décembre prochain.
Oui, merci beaucoup, Gilles, de la parole que vous m'accordez. Gilles, je pense que nous devons être réalistes. Il nous reste 6 mois par rapport aux prévisions donc pour les élections en décembre 2017. Est-ce dans les 6 mois, le gouvernement actuel est à même donc de mobiliser cet argent? Personnellement, je dis non, mais il y a des efforts qui doivent être fournis si il y a réellement ce que l'ingénieur Valérie a baptisé la volonté politique. Parce que contrairement à ce que l'invité venait de dire, lorsque nous prenons les élections de 2006 et les élections de 2011, vous allez vous rendre compte que ce sont des élections qui étaient très longtemps préparées. Donc cet argent-là était préparé depuis très longtemps. Mais ici, le dernier cycle, donc de 2011 jusqu'en 2016, nous nous sommes rendus compte que tout le monde était dans une léthargie. C'est comme qui dirait, il n'y avait pas cette volonté-là d'organiser les élections. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, dans 6 mois, c'est possible? Non. Par rapport maintenant aux partenaires étrangers, et ici, moi j'aimerais dire à l'invité que s'il y a certains partenaires qui ont essayé de reculer, parce qu'ils ont estimé que l'accord du 31 décembre n'était pas, donc n'est pas respecté. Parce que si cet accord-là était respecté, ce même partenaire avait dit qu'ils attendaient un gouvernement issu donc de ces dialogues-là pour prendre langue avec les partenaires. Mais au jour d'aujourd'hui, suivez même les discours de Saïd Djinit hier à la chaîne nationale. Hein, c'est quelqu'un qui vous dit, non, écoutez, nous nous attendons qu'on puisse appliquer donc les prescrits de l'accord de la Saint-Sylvestre. Là, c'est tout. Maintenant, si moi je propose ceci, si on veut réellement que nous puissions aller aux élections, le gouvernement n'a pas de choix. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il puisse contracter des dettes extérieures pour voir comment est-ce qu'il faut organiser les élections. Parce que s'il compte sur la mobilisation des recettes, s'il compte sur le partenaire, je pense que ça sera un échec patent et nous risquerons de nous retrouver à la case du départ. Donc la solution au jour d'aujourd'hui, à mon humble avis, reste un emprunt auprès de ceux-là qui sont favorables au gouvernement actuel, chercher une dette extérieure pour voir comment il faut régler la situation des élections dans notre pays hier.
Merci beaucoup, Maître Adrien. Vous estimez que c'est, important de pouvoir solliciter la contribution extérieure afin d'organiser ces élections. Est-ce qu'Eli de Mbandaka partage cet avis? Eli, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, alors bonjour la radio Capi, bonjour à l'invité. Je voudrais pour l'instant faire une part des choses. Dans une république, il y a certain environnement, ce que nous devons comprendre. Dans un environnement, c'est un appareil qui est composé avec de différentes sortes de systèmes qui sont bien organisés, bien structurés et bien fonctionnels. Et quand dans une république telle que la nôtre, il y a la perturbation de certains systèmes qui composent notre appareil républicain, et ça va occasionner un dysfonctionnement total. Quand dans un pays qui se sent incapable, en plus impuissant pour mobiliser les fonds, a un but d'organiser les élections, cela fait allusion à la matérisme de l'autorité ayant dans ses attributions le pouvoir et la mobilisation des fonds. Alors que cette capacité se définit par une déviance des opérations, l'effet d'entreprendre ou de s'orienter en dehors du chemin prévu par les procédures sur base desquelles la semi aurait dû s'en faire. Donc c'est une désorientation totale. Parce que depuis longtemps, il y a déjà 10 ans, on devait d'abord restructurer d'abord l'organe décisionnel de notre pays. Mais cette capacité pour la mobilisation des fonds continue à se parler à tout moment. Donc c'est ça ce qui nous énerve. Là, je veux vous dire, messieurs les compatriotes et les journalistes, que dans notre pays, nous avons de grandes potentialités d'abord dans toutes les catégories de ressources qui pourraient faire de notre pays un pays émergent.
Alors, qu'est-ce que vous proposez, Eli?
Oui, merci.
Eli,
Oui, même si, parce que tout le monde connaît très bien que voilà, il y a une déviance, il y a une désorientation. Là, nous les connaissons très bien. Mais ce que je peux proposer pour le gouvernement pour l'instant, c'est de recourir aux ressources qui nous appartiennent. Toutes les ressources nous appartiennent et on peut tout simplement valoriser l'activité de l'exploitation des ressources de notre pays et ça peut faire de nous un pays économiquement fort. Même pour les camps des élections, on ne peut même pas et non plus contacter les fonds extérieurs parce que nous avons des potentialités, nous avons des économies internes.
Parce qu'on a déjà fait preuve de cela en 2011. Merci beaucoup. Voilà 081-890-4969 pour votre intervention en direct et merci à ceux qui participent déjà en direct d'ailleurs sur notre page Facebook à ce débat.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Voilà, nous retrouvons Jérôme Mbosso, président de la LINALIT, Ligue Nationale pour les élections libres et transparentes. Vous avez suivi les uns et les autres, hein. Je crois que sans passion, il y a eu beaucoup de préoccupations et aussi des appréhensions des uns et des autres. Qu'est-ce que on peut répondre par exemple à Valérie qui dit que c'est possible d'ici au mois de décembre qu'on organise les élections, si jamais, parce que son idée rejoint pratiquement l'idée générale de Franck de Vienne qui parlait avant tout le monde sur la discipline financière et la volonté politique.
Je suis d'accord avec le compatriote qui vient d'intervenir, Olivier, Adrien et Elie, mais nous disons que les élections c'est tout, c'est un tout. C'est comme un pain, quand vous mangez un pain, vous vous trouvez devant un pain, vous ne savez pas qu'il y a eu levure, il y a eu telle farine, il y a eu tel temps pour que ça puisse se latter et puis donner levure, ainsi de suite. Et c'est pourquoi nous disons aux uns et aux autres, nous n'allons pas encore à philosopher que nous devons mobiliser, faire ces signes. Mais nous nous trouvons maintenant devant un fait accompli. Le 31 décembre 2017, nous devons faire les élections. Quel contenu technique allons-nous donner au processus de l'identification et enrôlement des électeurs? Parce qu'à l'heure qu'il est, il y a l'ère de Kinshasa. La diaspora n'est pas encore prise en compte. Il faut faire une étude de faisabilité au niveau des diasporas. L'étude prend pas moins d'un mois. Il faut maintenant enrôler le Congolais, la diaspora. Parce que la loi l'exige. Et sans donner la loi n'est pas modifiée, et on ne peut pas aller aux élections sans nos compatriotes de la diaspora. Il y a nos compatriotes du Grand Kassai qui ne sont pas encore concernés dans cette ère ici. Nous sommes au mois de juin qui va commencer. Nous sommes au mois de juin demain. Et ce mois de juin, nous allons faire 3 mois. Et dans les prévisions organisationnelles et opérationnelles et techniques de la CENI, c'est au mois de mai qu'on devait clôturer l'opération identification enrôlement des électeurs. Et 2 mois, juin, juillet, c'est pour faire maintenant toilettage, audit. Et après ça, donner à la représentation nationale pour faire une loi de répartition des sièges qui doit être précédée par une loi sur la révision ou bien la modification de la loi électorale. Et tout ça, ça nous prend du temps. Est-ce que nous pouvons aussi mettre en compte, est-ce que nous pouvons pas mettre en compte de tout ce temps pour arriver au résultat de laquelle, ok, on va aller aux élections au 31 décembre 2016. J'ai donné une image au départ, vous, l'enfant veut manger à midi, et que le tout ne soit pas encore là, mais la volonté de manger là, le principe de manger là, et on va manger. Est-ce qu'on est responsable quand on va dire on va manger à midi?
Parce que tous les acteurs politiques sont unanimes pour les élections d'ici au mois de décembre 2017.
Non.
Toutes les déclarations, en tout cas à la télé, et tous ceux qui ont participé aux assises de la CENCO, en tout cas, tous parlent du respect de l'accord du 31. Finalement.
Et tous avaient tenu le même discours, le respect du délai constitutionnel. Le 19 décembre.
Comme l'a dit Amos.
Et c'était aussi coulé dans une résolution du Conseil de sécurité. Est-ce que vous avez eu les élections dans le délai constitutionnel? Non, parce que les gens nous font rêver, surtout ceux-là qui tiennent le discours politique. Il faut tenir et porter des lunettes politiques et lunettes techniques. Est-ce que du côté politique, oui, on peut le faire même aujourd'hui. On peut faire des élections politiques aujourd'hui. Oui. On publie les résultats. Et nous attendent des conséquences.
Sur le plan technique.
Mais sur le plan technique, il faut être respecté, respectable. Nous avons été avec nos amis de l'EIF qui sont venus auditer le fichier. Nous avons parlé tous sur le langage technique, sans politique. Et nous avons vu qu'il y a autant de choses encore.
Mais parce qu'on a fait avec ces erreurs techniques en 2006, en 2011, et les parlements qui est en place, qui est légitime, les institutions, bref. Avec ces erreurs-là techniques que vous évoquez, parce que ça, je vous le concède, les pays fonctionnent.
Oh, le pays fonctionne.
Donc on peut aussi aller avec des erreurs techniques et les gens veulent l'alternance.
On n'en disconvient pas. Le politique est capable de faire. Si le politique décide aujourd'hui, on parle.
Oui, donc s'il y a la volonté politique.
On y va. Mais il faut voir que nous sommes dans un monde civilisé. La capacité d'un être humain, la capacité d'un pays, c'est d'aller vers l'amélioration et non faire le recul. Parce que si on dit parce qu'on a gâché, on a gaffé hier, on a encore gaffé demain et après demain, là on ne devient pas une nation civilisée.
Persévérer dans l'erreur, c'est ça l'être diabolique.
Non, c'est ça l'erreur. Donc nous disons aux uns aux autres, nous devons pousser nos dirigeants, notre gouvernement, pour qu'ils mobilisent l'argent. Mais l'ami est intervenu pour dire, est-ce que c'est réaliste dans les 6 mois de mobiliser l'argent?
523 millions pour les 3 élections, est-ce possible d'être mobilisé dans 6 mois?
pas c'est plus 500, parce que ce qu'on est en train de
déjà de les opérations dépenser,
ça
diminue un peu, ça se réduit.
Mais est-ce que ça peut être disponibilisé? Est-ce que notre parlement sera en mesure de continuer à faire des échecs extraordinaires pour arriver à ce qu'on puisse avoir les éléments? Est-ce que nous serons en mesure de dire,
parce que si déjà les opérations d'enrôlement, vous l'avez dit, ça prend pratiquement 243 millions, n'est-ce pas, de manière un peu ça avoisine un peu les 243 millions. Alors les 525 que venait d'évoquer Valérie de Kindou, nous supposons qu'il y a déjà déduction de 300 millions pratiquement, il ne reste que 200 millions, donc le gouvernement est capable de mobiliser les 200 millions.
Tout est possible.
Si les calculs sont bons, en tout cas.
Tout est possible, parce qu'aujourd'hui on peut nous amener.
Si mes calculs sont bons, donc je crois que 200 millions.
On peut nous amener aujourd'hui 200 millions. Maintenant, 200 millions, on a ça à main. Maintenant, il faut aller.
Parce que l'immeuble intelligent n'a pas coûté plus de 200 millions.
Oui, l'immeuble, on a construit ça plus quand même un peu du temps. Mais c'est ça que c'est la volonté, on donne l'argent. Nous voulons avoir de l'argent. Et quand on a l'argent en main, faisons ce que nous devons faire. Les opérations électorales, qui sont compliquées. Pourquoi aujourd'hui on se plaint de connaître de retard? C'est à cause de fichiers électoraux. C'est à cause de manque d'état civil. Nous n'avons pas registre d'état civil.
C'est un débat, on va y revenir quand même, le temps peut-être de l'accueillir.
Nous devons aller bousculer pour que les élections se tiennent dans
les délais raisonnables. Voilà. Raisonnable. Tout le monde parle de délais raisonnables, mais on ne cite pas la date du 31 décembre, parce que c'est l'accord qui parle du 31 décembre. Moi, c'est un jeu de mots. Peut-être vous, la société civile et la politique, vous parlez de délais raisonnables. C'est le délai de la Saint-Sylvestre ou le délai du 18 octobre. Voilà. Donc, c'est encore un débat. Mais nous allons prendre Maître Likonza, qui est à Kinshasa, Félicien, dans la ville province de Kinshasa également, et Junior en Bandaka, pour nous proposer des pistes. Que faut-il faire pour que nous mobilisons des ressources à l'interne? Est-ce possible? Est-ce difficile? C'est la question, Maître Likonza. Restons dans les sujets. Maître Likonza, bonjour.
Bonjour, Gilles, et bonjour à Gérard Bonson. Et Jérôme.
Merci.
Quelle est votre contribution? Comme l'a dit Franck, il faut une discipline financière, il faut la volonté politique, il faut un budget conséquent.
Très bien, il a touché au problème essentiel. Mais je voudrais que nous évitions d'être hypocrites. À lire les signes des temps, je ne vois pas comment on va arriver à organiser les élections en décembre 2017. C'est devenu impossible. Compte tenu de l'opération dans l'enrôlement et l'identification des électeurs, la CENI n'a pas précisé quand est-ce que cela prendrait fin. Et même si elle précise, on ne sait pas les imprévus. Et par-ci, par-là, il y a des poches de résistance, des troubles et d'insécurité.
Oui, Maître Likonza, il était prévu que le fichier soit toiletté fin prêt d'ici au mois de juillet. Ça, c'est ce qui était prévu par rapport à l'accord. Et que les élections se tiennent au mois de décembre, selon l'accord du 31 décembre. Les élections au mois d'avril 2018, selon l'accord du 18 octobre à la cité de l'OIA. Bref, pour dire, aujourd'hui, nous sommes... les opérations d'enrôlement sont organisées à Kinshasa. Nous sommes au mois de juin. S'il faut compter 90 jours, nous serons déjà au-delà. Parce que c'est la question que nous avons posée à Mme Mukoyanzo, qui était notre invitée la dernière fois.
A soulevé la question des Congolais de l'étranger. On doit.
Ça, c'est aussi notre contrainte.
Mais comment ça doit se faire et quand est-ce que cela prendra fin? C'est une élucubration qui n'a pas encore trouvé une solution jusqu'à présent. Et puis, nous avons suivi par rapport au sujet. Que le chef de l'État a appelé le gouvernement actuel
à
mettre en œuvre tous les moyens qu'il faut pour la tenue des élections. Maintenant, nous sommes en face d'une autre réalité. Auparavant, c'était une question des acteurs politiques qui se discutaient autour de cette question. Mais maintenant, le chef de l'État vient de prendre le dessus, donc il vient de sortir de la discussion pour laisser la question au gouvernement. Mais entre le gouvernement et le parlement, qui va bloquer? Puisque il y a aussi une histoire des ralentis au niveau même du parlement pour certaines lois, pour certaines décisions législatives et au niveau du gouvernement. Le budget aussi, actuellement, tous les financements, l'invité a parlé, on finance les élections en fonction du budget présenté par la CENI. Mais le gouvernement doit quand même définir une ligne dans le budget, et le budget qui doit être voté éventuellement, pour que les Congolais aussi, chacun là où il se trouve, ils puissent veiller à ce que ce budget-là soit exécuté tel que prévu. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas définir les besoins de la CENI, ce sont des besoins internes. Celle la CENI en interne, connaît.
Je pense que les besoins sont connus. Non, non, Maître Likonza, les besoins sont connus. Même pour élaborer un budget. Oui, même pour élaborer un budget. Oui, je crois que les besoins sont connus. Même pour élaborer un budget, on se réfère parfois au budget passé. Il y a des éléments historiques qui reviennent. Donc, je crois que c'est pas difficile. Mbosso l'a dit. Il y a des rubriques qui sont connues. Il y a la rémunération, par exemple, du personnel, la formation et aussi la question des opérations. Si nous pouvons tenir compte simplement de ces rubriques-là. Donc, il y a déjà des montants qui sont connus. Si, on doit faire ça en évolution, je crois qu'on tient compte aussi des éléments passés.
Oui, mais les réalités changent au jour le jour. Les réalités de 2016 ne sont pas celles de 2017. La situation change, il y a l'évolution. On doit adapter chaque situation à chaque contexte. Nous sommes dans un autre contexte où l'on parle aussi de l'accord de la Saint-Sylvestre et en face de nous, il y a d'autres réalités qui font qu'on ne puisse plus
tenir compte. Cet accord. Merci beaucoup. Merci,
Maître Likonza. En décembre, on n'aura pas les élections.
Merci beaucoup, Maître Likonza. C'est ça votre conclusion. Félicien, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, bonjour à l'invité. Bonjour à tous les invités de Radio Capus.
Mobiliser les ressources semble être difficile pour certaines personnes. Est-ce que vous partagez cet avis?
Vous savez, comme Franck l'a dit, il y a un problème de volonté politique. C'est pas vraiment un problème d'argent dans ce pays. Les jours où le président de la République dira « Oui, je respecte la Constitution et je ne fais pas le troisième mandat, c'est fini », les élections se feront même dans 3 mois après. Et donc, c'est un problème de blocage de la part de ceux qui ne veulent pas que... que les mandats ne se terminent pas et qu'il reste aux affaires.
Oui, mais vous avez suivi, Félicien, vous avez suivi, vous venez de suivre Jérôme Bosso qui parle de manière un peu technique également, qui au fait évoque cet aspect technique. Que d'aucuns ne prennent pas en compte parce que ça risque aussi de biaiser quand même cette passion, cette volonté de vouloir à tout prix aller aux élections et comme disait un homme politique, les élections ne constituent pas une panacée.
Les élections, on les a eues en 2006, on les a eues en 2011 parce qu'il n'y avait pas un problème de mandat du président de la République et aujourd'hui ça pose problème parce qu'il y a la fin et des mandats du président de la République, c'est pourquoi ça pose problème. J'ai dit que les jours où on dirait qu'on doit respecter la Constitution et on fait que 2 mandats et on cède la place, il n'y aura pas de problème. Vous savez que la vie de la nation ne s'est jamais arrêtée depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Nous continuons à fonctionner et tout fonctionne normalement, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit des élections, on commence à évoquer problème d'argent, problème de ceci, ça. Ok, mais si c'est un problème d'argent, mais la loi sur la répartition des sièges, ça viendra quand? C'est un problème d'argent. L'enrôlement des gens de la diaspora, c'est toujours un problème d'argent. Et tout ça, tout ce qui se passe là, tous ces retards, la CENI qui vient, même pour la ville de Kinshasa, il prend d'abord 4 communes, et si c'est là, et ce sont des choses déjà planifiées et bien calculées d'avance pour faire retarder les choses. Même si on a nommé Bruno Tshibala le premier ministre, je ne vois pas comment il va faire pour que les élections puissent se tenir en décembre.
Mais est-ce que vous l'espérez encore rien avec un budget revu à la hausse, du simple au double, par exemple?
Moi, je dis que c'est pas un problème d'argent. Quand même. J'insiste sur ça, il n'y a pas de problème d'argent. Il y a ce budget, qu'il n'y ait pas ce budget, c'est pas un problème d'argent. Même si on vient nous donner des milliards ici et pour organiser les élections ne seront pas organisées à cette date-là parce qu'il y a des gens, il y a des gens qui veulent pas qu'on organise des élections.
Et vous pensez que la contribution des partenaires serait également la bienvenue, par exemple?
Oui, mais on l'a refusé. En ne voulant pas respecter l'accord du 31 décembre.
Certains partenaires se sont désengagés.
On n'a pas voulu avoir l'appui des partenaires extérieurs. Et c'est comme ça qu'on a voulu.
Mais les chiffres avancés peuvent encore nous faire rêver. Les partenaires ont souscrit, c'était à 120 millions. Mais aujourd'hui, nous sommes à 70 millions, donc on peut encore rêver. 70 nous millions, il ne reste que 50 millions.
D'autres partenaires peuvent venir. Le 31 décembre, il n'y aura pas d'élection parce que il y a un problème. On multiplie des stratagèmes pour qu'on n'arrive pas à organiser les élections cette année. Et peut-être l'année prochaine, mais aussi ça ne sera pas facile. Il faut une forte pression interne et externe pour qu'on arrive à organiser des élections dans ce pays. Parce que c'est pas un problème d'argent, c'est pas un problème de moyens, mais c'est un problème d'hommes. Et les gens sont là aux affaires, ils disent ils restent là et pour toujours. Et les députés vont faire 5 mandats sans élection et ainsi de suite, et on va continuer comme ça.
Voilà, merci beaucoup Félicien Guindoula d'avoir appelé de Kinshasa. Junior, vous gardez la ligne, nous allons vous retrouver d'un moment à l'autre. Le temps peut-être une réaction rapidement, Jérôme.
Et nous disons que, chers amis...
C'est la thèse que vous développez que d'ici au 31 décembre qu'il n'y aura pas élection. Donc on ne peut même pas penser à mobiliser les restes.
Non, on mobilise les restes, on doit y aller. Parce que maintenant, vous avez vu, vous-même vous l'avez dit, nous avons maintenant difficile à dire quel concept. Les élections vont se tenir dans le respect du délai...
Du 31
décembre ou du 18 octobre. Oui. Et c'est ça la difficulté. Même ceux du 18 octobre, ni le 31 décembre, ils sont difficiles à se conformer à leur délai. Parce qu'ils n'avaient pas tenu compte de la capacité de mobilisation de moyens financiers pour lancer l'opération. Attends, parce que nous avons levé l'option dans le délai là, qui est trois élections le même jour. Et les trois élections, on vient de démontrer par les techniciens, par les experts électoraux, en l'occurrence de l'OIF, ça doit être précédé par une étude de cartographie de bureau de vote. Pour les études, prend combien de temps? Et cette étude n'est pas encore menée. Il y a une autre étude pour l'enrôlement et l'identification de nos compatriotes de la diaspora. Ce sont des études qui vont nous prendre toujours du temps. Et le temps n'est pas bloqué. Même l'apport de copartenaires, nous-mêmes du gouvernement, quand on conditionne l'apport à telle question, le temps est en train de filer et personne ne peut retenir le temps.
Merci beaucoup. On va poursuivre avec vous le temps de rappeler à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qui peuvent également participer à ces débats sur les élections, les budgets, comment mobiliser les ressources en interne. Composez le 081 890 49 69 pour votre intervention en direct. Mais vous avez également la possibilité de poster vos commentaires et d'échanger de manière citoyenne sur notre page Facebook avec ceux qui participent à ces débats en direct ici au pays et à l'étranger.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Vous pouvez également composer les 081 890 49 69 pour votre intervention en direct. Junior, vous êtes en Bandaka, bonjour.
Bonjour, monsieur Junior.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Avant tout, je voulais que les électeurs du public et le gouvernement...
Alors vous sortez un très coupé, Junior, avec des micro-coupures au niveau des communications. Est-ce que vous pouvez peut-être changer un tout petit peu votre position? On verra si la communication va s'améliorer. Junior, vous êtes avec nous? Voilà, le temps que la ligne s'améliore, la liaison s'améliore, on va prendre Timothée qui est à Kananga. Timothée, bonjour. Timothée, vous êtes avec nous? Alors, on revient à Junior. Junior, vous êtes en Bandaka? Junior, vous êtes avec nous? Voilà, des petits soucis. Alors, on prend Maître Sonville à Lubumbashi. Maître Sonville, bonjour. Voilà, on a des petits soucis avec la ligne. Il est temps pour nous que la réalisation nous aide d'avoir à accueillir d'autres auditeurs qui ont déjà réagi sur notre page Facebook. On revient à vous, Jérôme Bosso. Donc, c'est quasiment impossible que les élections se tiennent. Vous l'avez dit avant même le bulletin, qu'effectivement, on se retrouve aujourd'hui avec deux accords et ça prête à confusion.
Non, c'est une confusion entretenue par la classe politique, c'est une confusion entretenue et à dessein. Parce que quand en mettant la date du 31 décembre 2017 pour l'organisation des élections, on croyait qu'ils devaient mobiliser les moyens.
Mais le mois d'avril, c'est possible. Le mois d'avril 2018, c'est possible.
Je ne peux pas
techniquement dire, parce que vous êtes
possible ou impossible. Ça peut être, c'est comme l'autre intervenant a dit, ça peut être possible arriver au mois d'avril.
Mais concrètement, quand est-ce que ça peut être possible si on mobilisait les recettes?
Donc vous savez, ce qui est très important dans l'organisation des élections, c'est la construction, un, de la confiance, 2, du consensus électoral politique. Parce que quand le consensus est là, tout le monde est d'accord, et tout le monde contribue à la publication du calendrier électoral consensuel et concerté. Parce qu'aujourd'hui, le calendrier n'est pas encore publié.
Non, mais maintenant, avait dit, techniquement, le calendrier est prêt. Il était même prêt à publier, il avait appelé les journalistes, qui sont allés, mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là, et il a pratiquement dit que le calendrier est techniquement prêt, mais il attendait des options politiques. Oui, et ces options ont été levées.
Mais les options,
à la Saint-Sylvestre.
Les options politiques, c'est le consensus. Le consensus, c'est se mettre d'accord pour dire que nous allons faire des élections. Tout d'abord, ce sont des élections atypiques qui sortent du cadre même constitutionnel. Parce que la loi fondamentale prévoit qu'il y ait élection après régulièrement chaque cinq ans. Mais nous sommes maintenant au-delà du cadre
constitutionnel.
Et maintenant, nous sommes en train de nous replier sur la recherche du consensus. Pour que, quand même on va le faire, tant mieux que mal, mais que les résultats puissent être acceptés par les uns et les autres. C'est ça un grand défi. Organisation des élections, c'est l'acceptation du résultat. C'est le recours à la courtoisie électorale. Que le perdant présente ses félicitations au candidat gagnant. Et à ce moment-là, la paix va pas s'en souffrir. Mais aujourd'hui, si les uns hésitent, on hésite de publier, parce que les autres ne sont pas encore aussi, ne sont pas mis au pas. Nous devons tous. Et je pense qu'il ne suffit pas d'organiser les élections aujourd'hui et de le publier demain. Et demain, on revient comme si on n'y avait pas élection.
Voilà. Merci beaucoup, Jérôme. Bosson, nous rappelons que vous êtes le président de la LINELITE, Ligue nationale pour les élections libres et transparentes. Et vous êtes de la société civile. Maître Sonville nous a rejoint à ce niveau du débat. Lui, il est du rassemblement. Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour Monsieur Gire, bonjour à notre invité, bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Okapi.
Alors, Franck parlait tout à l'heure de la discipline financière, volonté politique et un budget conséquent. Les trois pistes là, ça pourrait nous aider à mobiliser réellement les ressources à l'interne en vue des élections prochaines.
Toutes les stratégies sont bonnes pour que nous puissions arriver aux élections prochaines. Parce que la préoccupation de la population, c'est d'aller aux élections et vivre l'alternance. Au-delà de ça, nous n'avons jamais organisé seuls les élections pour ne pas recourir aussi à la communauté internationale. Mais si aujourd'hui, le gouvernement n'a pas de moyens, même nous, la population, comme c'est notre vœu de vouloir vivre les élections d'aujourd'hui, nous pouvons nous cotiser, la population est prête à se cotiser même 100 francs, 1000 francs par tête pour que nous puissions aller aux élections, qu'il n'y ait pas de manœuvre dilatoire, soi-disant, par manque d'argent, par ceci, par ça, cela. Et mobilisons...
Mais est-ce que vous soutenez ce qui, les internautes qui ont pensé responsabiliser les mouvements citoyens? Pourquoi ne pas organiser, mobiliser la population à récolter quand même quelques sommes d'argent, afin d'aider la CENI aussi?
Oui, c'est nous qui vivons avec la population, M. J.R. La population, elle est prête même aujourd'hui à commencer à cotiser. Puisque, malgré qu'il y ait mauvaise gouvernance, mais nous, la population, nous voulons nous prendre la charge pour qu'il y ait organisation des élections. Ce n'est que l'alternance qui peut résoudre ces problèmes de la RDC. Puisque la Constitution dit ne pas aller au-delà de deux mandats. Alors nous ne voulons pas qu'il y ait d'anguille sur l'os, qu'il y ait de manœuvre dilatoire, soit disant qu'il n'y a pas eu l'argent, tout ça. C'est pourquoi la population elle est prête. Quand à la société civile, démobiliser, sensibiliser, il ne se pose pas de problème. Même nous, les partis politiques, quand on donne l'espace pour sensibiliser nos membres, pour sensibiliser les membres des rassemblements, nous n'avons plus d'espace politique, ni à la chaîne nationale, et les chaînes de tous les opposants sont encore fermées, les chaînes de médias.
Merci.
Que nous pouvons sensibiliser.
Merci
ni
beaucoup.
Le meeting ne parvient pas à se tenir au niveau de Lubumbashi, puisque le pouvoir nous a refusé.
Merci
qu'on
beaucoup.
Merci beaucoup,
Maître Sonville.
Qu'on nous donne l'occasion d'exprimer avec nos populations. La population.
Voilà. On va accueillir également Timothée qui est à Kananga. Timothée, bonjour. Voilà, décidément, on a des petits soucis vraiment avec la ligne. Mais entre-temps, Jérôme, réaction par rapport à ce que disait tout à l'heure Maître Sonville.
Oui, on est dans le souci de mobiliser les moyens. Mais il y a aussi notre raccourci. Raccourci, c'est-à-dire comment réduire les coûts des opérations électorales. Comment réduire les coûts? Parce que si aujourd'hui nous avons évalué que...
Passer aux élections directes, par exemple, pour le président de la République, ou indirectes. Bon voilà, indirectes, c'est ce que proposait, c'est moins coûteux, le Parlement en place, et lui va élire le président de la République.
Oui,
c'est moins coûteux.
Vous savez que l'organisation des élections tient compte du concept et de l'environnement. et du mental du peuple congolais. On n'est pas encore
élection arrivé
à indirecte à ce niveau-là, parce qu'on comprendrait que ça sera
déjà... Ça aura des implications, il faut changer la constitution.
Remettre, autant, mais dans le mental d'un Congolais, aller à ce genre d'élection, on va avoir un électorat réduit, capable à être manipulé, à être malléable, d'où il faut recourir à tout le monde, parce que, dirait, si vous allez manipuler, vous n'allez pas manipuler toute une nation, vous allez manipuler un petit groupe. Mais cela étant, mais la réduction du coût des élections revient au goût. C'est parce que nous importons le tout.
Bon, avant de conclure, on va essayer encore la ligne de Timothée, parce que bon, il nous a appelé, il insiste. Timothée, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour.
Oui, quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Ma contribution à ce débat, c'est de ne jamais organiser les élections
Voilà, dommage. On ne saura pas vous retenir le plus longtemps possible avec cette mauvaise qualité de liaison téléphonique. Merci à Timothée d'avoir insisté, hein, et surtout d'avoir apporté l'intérêt à cet échange citoyen. On revient donc à vous, Jérôme Bosso. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est que s'il y a cette volonté politique, il y a la discipline financière et un budget qui répond d'ailleurs à ce besoin. Nous arriverons à mobiliser d'ailleurs des ressources à l'interne.
Oui, nous sommes capables, la République démocratique du Congo est capable de mobiliser des ressources à l'interne, sans ignorer que l'organisation des élections relève de la souveraineté d'un État. Dans la plupart des États, la France a organisé des élections, n'a pas demandé l'argent de l'Union européenne, n'a pas recouru aux États-Unis ni à la Grande-Bretagne. C'est parce que nous trouvons devant cette difficulté qu'on puisse recourir aux apports de l'extérieur. Donc, en mobilisant l'argent, on peut le faire. Mais le souci, le défi qui est maintenant le nôtre, la classe politique congolaise, le défi c'est quoi? Nous devons nous investir à produire un fichier électoral actualisé, crédible, intègre. Pour le faire, il faut la participation de tout le monde, des partis politiques, de la société civile, d'encadrer ce processus du fichier électoral qui pose des problèmes. Une fois qu'on a ces fichiers, et on va l'auditer, et tout le monde a les informations, ça fait partie de la transparence et de la crédibilité du processus électoral, nous pensons que nous pouvons nous en sortir. Mais il faut aussi donner l'information à l'opinion, l'information réelle, basée sur les aspects techniques et politiques, et surtout à ces techniques organisationnelles, pour dire, avec ces étapes, vous l'avez si bien dit, on commence au mois de juin, c'est au mois de septembre qu'on va clôturer
pour Kinshasa.
Or, c'était prévu au mois de juillet, on a déjà accusé un retard de 2 mois et qu'on va voir aussi les...
Convoquer l'électorat,
on ne peut pas le convoquer parce qu'on n'a pas encore fait la diaspora, on n'a pas encore fait le Grand Kassai, ça va prendre aussi combien de mois, faire la sommation de tout ce mois et projeter sur le délai du 31 décembre, est-ce qu'on va s'en sortir ou pas.
Voilà, Jérôme Bosson, vous êtes président de la LINALIT, Ligue nationale pour les élections libres et transparentes en RDC. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir eu le temps d'échanger de manière citoyenne avec les uns et les autres. À très bientôt, hein, Jérôme. Merci. Voilà, on se quitte avec vous à ce niveau. Donc nous disons merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission. Sylvain Matundu, Nico Kalambay et Pierrot Elameji. Ce programme vous a été supervisé par Martin Sebou Jangwe et coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anchi. À très bientôt pour un autre numéro.